Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères, nous célébrons aujourd'hui une des fêtes les plus importantes de l'année. Pourquoi cela? Car c'est le dogme de notre foi dont la négation conduit aux conséquences les plus désastreuses. On nous laisserait bien croire dans le secret de notre conscience ce que nous voulons, du moment que nous n'ayons pas la prétention de vouloir vivre dans une société qui, en tant que société, reconnaisse la loi de Dieu, reconnaisse la royauté de notre Seigneur Jésus-Christ. Les ennemis de l'Église savent bien que par ce moyen, c'est la ruine de la foi dans les âmes, c'est la grande route vers l'apostasie universelle. Et aujourd'hui, malheureusement, suite aux efforts de la maçonnerie, et plus encore, à cause de la trahison inouïe de l'Église conciliaire, des papes conciliaires, plus aucun État n'est catholique. Tous les États qui autrefois étaient catholiques ont tous apostasié. Et pourtant, notre Seigneur est roi. Les prophètes, les évangélistes, les apôtres proclament tous cette vérité. À chaque page que nous tournons de la Sainte Écriture, nous y lisons que notre Seigneur est roi. Ainsi, au livre des Nombres, il est appelé le dominateur qui doit sortir de Jacob. Au psaume numéro 2, le roi que le Père a établi sur sa montagne sainte en Sion pour recevoir les nations en héritage et comme domaine les extrémités de la terre. Rappelons-nous aussi le beau passage que l'Église nous fait entendre tous les ans à Noël, tiré du prophète Isaïe. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'empire a été posé sur ses épaules, son empire s'étendra et la paix n'aura point de fin. Un dernier texte encore, s'il était besoin, tiré cette fois-ci du Nouveau Testament, au livre de l'Apocalypse. Notre Seigneur y est appelé le roi des princes de la terre. Il a écrit sur ses vêtements et sur lui-même cette inscription « Rex Regum et Dominator Dominantium »« Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Si l'Écriture nous affirme clairement que notre Seigneur est roi, nous pouvons nous interroger quels sont ses titres à la royauté. Par quel droit est-il roi? En tout premier, par un droit de naissance éternelle. Il est le Verbe de Dieu, l'image du Père. Tout entre lui et son Père est en commun. Il a par conséquent cet empire souverain sur toute chose qui n'appartient qu'à Dieu. Le bon Dieu a tout créé par son Verbe. Rien n'a été fait sans lui. Sine ipso, nihil factum est. Le Verbe de Dieu est Dieu. Il est notre Créateur. Il a donc toute autorité sur nous et toute puissance. Il faut ajouter également à ce droit de naissance éternelle un droit de naissance temporelle. Pour récompenser son Fils, qui s'est abaissé jusqu'à nous en s'incarnant, en assumant une nature humaine, Dieu a voulu que cette même nature, unie désormais pour toujours à son Fils, participa à la gloire, au privilège de sa royauté. Dieu le Père a donné la puissance et l'autorité royale à son Fils en tant qu'homme. Saint Thomas affirme d'ailleurs que l'âme du Christ, son âme, est une âme de roi qui dirige tous les êtres, car par l'union hypostatique, cette union par laquelle la nature humaine et la nature divine sont unies dans la personne du Verbe, et bien par cette union hypostatique, l'âme du Christ est au-dessus de toute créature. Mais notre Seigneur est encore roi à un autre titre, peut-être encore plus touchant pour nous. Depuis le péché de nos premiers parents, le diable avait usurpé sur tout le genre humain des droits indus qui ne lui étaient pas permis de prendre. Et c'est à cause du péché qu'il détenait ce pouvoir sur le genre humain, le péché répandu par toute la terre. Or, notre Seigneur, en mourant pour nous dans l'ignominie de la croix, par cette voie de l'humiliation, de la douleur, de la mort, a triomphé de l'ennemi. Au moment où il mourait, il abattait d'un coup l'empire du démon, l'empire du péché et la mort elle-même. Et il s'est acquis, par cette grande victoire sur la croix, un droit nouveau à régner sur nous. C'est ce qu'on appelle son droit de rédemption. Et notre Seigneur est donc roi à la fois par héritage, par son droit de naissance éternelle et de naissance temporelle, et par conquête, par son droit de rédemption. Jusqu'ici, un esprit libéral aurait pu nous suivre, mais il objecterait, oui, très bien, le Christ est roi, mais cela ne concerne pas les sociétés. Il est roi des individus, il est roi des consciences, mais la société n'a pas à reconnaître cette royauté. Dès le IVe siècle, saint Augustin a répondu aux libéraux de tous les temps dans une lettre admirable écrite à un haut fonctionnaire de l'Empire romain nommé Macédonius. Il était préfet de l'Empire. Voici ce que dit saint Augustin en résumé. Quelles que soient les vertus personnelles d'un chef politique, ce chef politique n'est pas réellement vertueux devant Dieu s'il se borne uniquement à procurer la prospérité temporelle de ses sujets. Et plaise à Dieu que nos gouvernements aient au moins ce but en tête. Non, ce chef n'est pas vertueux. Pour plaire à Dieu et rendre son peuple vraiment heureux, un chef politique doit encore, par son exemple et des lois pleines de sagesse, amener tous ses sujets à servir Dieu avec fidélité. Saint Augustin est encore plus clair dans une autre lettre, adressée cette fois à Boniface, comte d'Afrique. Autre chose, dit-il, est pour le prince de servir Dieu en sa qualité d'individu, autre chose en sa qualité de prince. Comme homme, il le sert en vivant fidèlement, comme roi, en portant des lois religieuses et en les sanctionnant avec une vigueur convenable. Saint Augustin donne ensuite au comte Boniface les exemples des rois de l'Ancien Testament qui ont servi Dieu avec cette fidélité requise. Tout d'abord, Ézéchias et Josias, qui détruisirent les temples et les bois consacrés aux idoles. Le roi de Ninive, qui força ses sujets à apaiser la colère de Dieu par une pénitence publique. Darius, qui donna à Daniel la permission de briser les idoles et livra aux lions les ennemis du prophète. Nabuchodonosor lui-même, qui porta une loi qui punissait de mort quiconque oserait blasphémer le nom du vrai Dieu. Et saint Augustin conclut sa lettre ainsi, « Voilà comme les rois, en qualité de rois, servent Dieu, quand ils font pour sa cause ce que seuls les rois sont capables de faire. » Et saint Alphonse de Ligorie disait avec raison qu'il aurait plus fait pour la cause de Dieu s'il avait converti un roi que s'il avait prêché des centaines et des milliers de missions. Il aurait fait davantage pour un seul roi converti qu'en ayant prêché des milliers de missions. Nouvelle objection libérale, cette fois-ci, qui cite un passage de l'Évangile que nous avons entendu aujourd'hui, « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Notre Seigneur n'a pas dit « Mon royaume n'est pas en ce monde ». Il n'a pas dit non plus « Mon royaume n'est pas sur ce monde ». Il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Voulant marquer par là la différence essentielle qui existe entre les royaumes d'ici-bas et le sien. Son royaume, le royaume de notre Seigneur, est avant tout un royaume spirituel qui s'établira par la vertu divine et non par la puissance des armes, à la différence de l'islam. Mais il ne s'ensuit pas de là que notre Seigneur ne doive pas régner dans les institutions des nations, dans leurs lois, dans leurs coutumes. Saint Jean Chrysostome, à peu près à la même époque que saint Augustin, dit même que cette interprétation libérale de ce verset de l'Évangile est ni plus ni moins qu'hérétique. Et puis, à bien réfléchir, notre raison elle-même nous apprend que les sociétés doivent se soumettre au Christ roi. Il est en effet naturel à l'homme de vivre en société, de converser avec ses semblables, de tisser des liens avec son prochain. Il est inscrit au plus profond de notre nature que nous sommes des êtres sociaux. Tout homme a besoin d'une famille, et toute famille a besoin d'une cité, d'un État. Et puisque Dieu est l'auteur de notre nature et que notre nature postule que nous vivions en société, Dieu est l'auteur des sociétés. Et par conséquent, de l'autorité sans laquelle on ne peut concevoir aucune société. Et les sociétés ont donc un devoir de rendre un culte à Dieu qui est leur auteur. Et d'ailleurs, Dieu fait vivre et gouverne les nations après les avoir fondées. Il leur donne la richesse ou la pauvreté, les victoires ou les défaites, les bénédictions ou les châtiments, suivant qu'elles sont fidèles ou rebelles à sa loi. Et puis cette conception de l'État sans Dieu, de l'État se suffisant à lui-même, n'ayant aucun compte à rendre à Dieu, qui prétend se placer au-dessus de toutes les religions, ne prenant parti pour personne, est une aberration issue du XVIIIe siècle, sous la poussée des loges maçonniques. Le fruit de cette guerre à mort que mènent ces mêmes loges pour chasser Dieu de la vie publique et sociale et par là des âmes. Cependant, cette idée de l'État sans Dieu est un non-sens, une impiété sans nom. Quand nous lisons la vie des hommes qui ont vécu avant notre Seigneur, nous constatons que partout, mis à part en Judée, ils vivaient dans le plus sombre paganisme. Ils adoraient des dieux plus horribles les uns que les autres. Eh bien, ces gens-là, malgré tout, gardaient intact le principe selon lequel tout homme, toute société humaine doit se soumettre à des forces qui lui sont supérieures. Toute la vie sociale, la prospérité d'une nation dépendait pour eux entièrement de la protection de la divinité. Et il lui était aberrant de fonder une cité sans Dieu. La prétention de l'homme moderne, disons mieux de l'homme apostat, de s'affranchir de toute tutelle, le place bien en dessous de l'homme païen. Que faire aujourd'hui ? Époque où les ennemis de l'Église paraissent tout-puissants, où les bons catholiques n'ont accès à quasiment aucune charge importante dans l'État. Tout d'abord, honorons notre Seigneur comme roi là où nous sommes maîtres, à commencer par nous-mêmes, dans nos intelligences et nos volontés, dans nos intelligences en ayant un réel souci de nous former, de mieux connaître, par exemple, cette belle doctrine du Christ roi. Chacun de nous devrait avoir lu l'encyclique Quas Primas, qui n'est pas très longue d'ailleurs. N'hésitons pas aussi à lire des ouvrages complémentaires pour approfondir cette doctrine, comme Pour qu'il règne, de Jean Housset, ou encore le très beau livre du père Théotime de Saint-Just, La royauté sociale de notre Seigneur Jésus-Christ, d'après le cardinal Pie. C'est une mine de renseignements. D'ailleurs, le cardinal Pie, ce grand apôtre du règne de notre Seigneur, faisait un devoir impérieux à l'élite catholique de se former. Et qu'est-ce que la tradition ? Qu'est-ce que sont les traditionalistes s'ils ne sont une élite catholique ? La crise que nous vivons aujourd'hui dans la tradition est peut-être causée par ce fait que les traditionalistes ne se considèrent plus comme une élite, ne tendent plus à former cette élite si chère au cœur de notre Seigneur. Le cardinal Pie aimait à donner en exemple le général de la Mauricière. Ce général avait combattu en Algérie de 1830 à 1846 et plus tard, il a offert son épée à Pie IX pour défendre les États pontificaux contre les révolutionnaires italiens. Ce général s'était converti sur le tard. Et bien malgré tout, il s'était adonné avec courage à l'étude. Il disait lui-même, il se plaignait des livres qu'on ne lit pas et qui feraient tant de bien. Et un jour, lors d'une audience avec Pie IX, Pie IX parlait, et à plusieurs reprises, Pie IX cita des pères de l'Église. Mais il n'achevait jamais la citation. Il laissait la citation pendante. À chaque fois, le général a fini la citation. À la troisième ou quatrième citation, Pie IX interroge le général, « Mais mon général, où avez-vous lu les pères de l'Église ?» Et celui-ci a répondu, « J'ai toujours trouvé du temps dans les camps militaires pour m'adonner à l'étude pour lire les pères. » Le cardinal Pie ajoutait également que dans les sujets favoris de lecture du général, il y avait la somme théologique de saint Thomas d'Aquin. On pourrait donner aussi l'exemple du grand Condé, le vainqueur de Rocroi, le chef de la Fronde, qui après une vie passée dans le libertinage, à la fin de sa vie s'est converti et passé dans le parti dévot. Et il allait assez souvent sur les bancs de la Sorbonne pour suivre des cours de théologie. Il regrettait juste de s'y être mis seulement sur le tard. Notre Seigneur veut encore régler sur nos volontés, que toutes nos affections, tout ce que nous désirons, tout ce que nous voulons, soit soumis à sa très sainte volonté. Mais cela ne s'obtient que par un long travail de prière, d'abnégation de chaque jour. Alors profitons peut-être de cette fête pour demander à notre Seigneur un regain de courage pour continuer cette œuvre de notre sanctification. Notre Seigneur veut encore régner dans les familles. Les pères de famille, tout spécialement, et les mères de famille, ont ce devoir de transformer leur famille en un autre Nazareth, où y fleurissent toutes les vertus chrétiennes, l'oubli de soi, la charité. Et puis, dans l'ordre social, le moins que nous puissions faire, c'est de profiter de toutes les occasions pour témoigner de notre foi. Avec bon sens, bien sûr, mais avec courage. Notre Seigneur veut se servir du bon exemple que nous pouvons donner pour toucher les âmes, christianiser le milieu dans lequel nous vivons. Écoutons encore une fois, une dernière fois, le cardinal Pie. En plein XIXe siècle, il s'interrogeait douloureusement « Pourquoi ?» Un sacerdoce si nombreux, pourquoi une élite si considérable d'hommes croyants et pratiquants n'apporte-t-il aux souffrances du pays qu'un remède si peu appréciable et si peu efficace ? Et à l'époque, les trois quarts de la population étaient catholiques. Il y avait un nombre de vocations incroyable. La France envoyait des missionnaires dans le monde entier. Le cardinal continue. Comment expliquer que tant de charité, tant d'activités, tant de dévouement produisent si peu d'effets et si peu de fruits. Et voici sa réponse. Parce que les fidèles, et trop souvent les prêtres, ont cru que même en pays de christianisme, on pouvait observer la neutralité. Comme si Jésus-Christ n'était jamais venu ou avait disparu de ce monde. Comme toujours, la principale force des méchants, c'est la faiblesse des bons. Donnons un exemple de courage récent. un jeune homme traditionnaliste dans son milieu de travail, alors que toute la société dans laquelle il travaillait était réunie au réfectoire, a osé poser cet acte de force de demander qu'on enlevât du mur les images répugnantes qui étaient affichées. On lui dit, mais ça ne dérange personne. Eh bien, il a eu la force de répondre, si, cela offense Dieu. Et il a eu gain de cause. Les images ont été retirées. Alors demandons donc bien pendant cette fête plus de courage, plus de foi pour suivre notre Seigneur, pour mieux le servir. Notre Seigneur sera vainqueur. Je régnerai malgré mes ennemis, a-t-il dit à Sainte Marguerite Marie. Et même on peut dire que notre Seigneur est déjà vainqueur. Depuis la croix, depuis 2000 ans, notre Seigneur est le grand vainqueur. Et nous serons victorieux avec lui si nous nous battons pour lui, avec courage et avec foi. Nous demandons bien cette foi plus vive, plus efficace, pour vraiment témoigner de l'amour que nous avons pour notre Seigneur. C'est la grâce que nous demandons pendant cette messe. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.